Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est dimanche soir, c'est l'heure du tigre et nous sommes ensemble jusqu'à 19h. So let's go, Marco.
Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Mais est-ce que c'est une gueule d'atmosphère ?
Voilà la musique !
Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot.
Là, il a marqué un point.
C'est de dire si dans ma vie, j'ai entendu des conneries. Mais des comme ça, jamais.
À l'affiche ce soir, c'est l'histoire d'un sport où l'athlète devient un centaure. C'est le récit d'une union sportive entre un cavalier et son cheval, entre l'homme et l'animal. Ce soir, c'est l'histoire du saut d'obstacle, prouesse de la compétition équestre. Entre la piste et l'écurie, voici la 23e étape de notre grand safari au pays de la culture de masse.
Tu nous prends pour des bourris ?
Oui, ça part.
Ça, c'est un excellent...
Burger Winter is coming.
Alors, tout au long du week-end se tenait en Gironde le Jumping International de Bordeaux. Comprenez, une épreuve importante sur le circuit de la Coupe du Monde du saut d'obstacle, ce vieux sport olympique où depuis les JO de 1900 à Paris, un cheval repart lui aussi avec une médaille d'or, d'argent ou de bronze. Et bien ce soir, pour ausculter ce sport étrange, ils seront deux invités au micro d'Inter. Tout d'abord Frédéric Morand, vice-président de la Fédération Française d'Équitation, et il est en charge justement du saut d'obstacle. Et puis à ses côtés, un ancien champion olympique de la discipline, c'était à Séoul en 1988. Personne n'a oublié les exploits de Pierre Durand sur son Japlou, et il sera là tout à l'heure pour nous expliquer cette relation particulière entre le champion et sa fidèle monture. Mais juste avant le cavalier et son cheval, nous accueillerons l'impresario et ses actrices, le Dominique Besnéard. Dominique, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, qui est à l'affiche ce soir ?
Ma vedette préférée depuis que j'ai 10 ans. Mademoiselle Micheline Prel.
Très bien. Et enfin, juste avant 19h, bien sûr, le Give Me Five signé Joy Raffin. Salut Joy.
Bonsoir Colin, bonsoir à tous. Au programme ce soir, des femmes, des athlètes, des sportives, que des héroïnes.
Eh bien parfait, merci Joy, à tout à l'heure. Surtout, n'ayez pas peur et soyez les bienvenus dans l'œil du tigre.
L'œil du tigre, Philippe Colin sur France Inter.
Alors, ce soir, on commence avec du sport féminin. Oui, à l'occasion de l'opération lancée ce week-end par le CSA pour mettre en valeur le sport pratiqué par des femmes. Et ici, on s'est dit qu'on voulait raviver la mémoire, le souvenir de celle qui fut une pionnière, une immense championne de l'après-guerre, une esthète même, Madame Micheline Ostermeyer. Voici le flashback.
Et voici Micheline Ostermeyer. Avec un jet de 13,75 m, Micheline Ostermeyer est proclamée championne olympique et pour la seconde fois fait hisser au son de la Marseillaise le pavillon français au grand mât olympique.
Micheline Ostermeyer symbolise à la perfection l'harmonie, enfin l'harmonie c'est tout à fait normal, je dirais, et même pour utiliser un barbarisme à la mode, la complémentarité entre le sport et les études, et de haut niveau dans les deux cas. À 23 ans, elle est premier prix du conservatoire de piano et médaille d'argent du poids au championnat d'Europe. À 24 ans, elle est à la fois lauréate du concours international de Genève et championne du monde universitaire de poids et hauteur. À 25 ans, elle est médaille d'or du disque et du poids aux Jeux Olympiques de Londres. À 27 ans, premier récital Salle Gaveau et record de France du disque. Elle joue, disait la critique, d'une façon magistrale. Son jeu, aussi puissant que son corps de sportive, est dynamique, passionné, tendre. Il est d'une harmonie qui illustre la vérité de l'unité du corps, de l'âme et de l'esprit.
À l'Élysée, le sport est à l'honneur. Le président de la République a tenu à féliciter lui-même Micheline Ostermeyer, championne olympique. Marcel Cerdan, champion du monde de boxe, et avec eux tous ceux qui ces derniers mois ont illustré dans le sport les couleurs françaises. Sourire heureux, sourire glorieux. Le sourire de la semaine.
Sourire heureux, sourire glorieux, c'est aussi le slogan de sa vie à lui. Voici le coach des actrices, c'est l'heure du Dominique Besnéard.
C'est fou la vie. Hein.
Ce soir, Dominique, elle appartient au trio.
Oui, avec Daniel Darieux et Michel Morgan. Micheline Prel est la troisième grande dame du cinéma français. Après l'avoir fait pour ses consoeurs, nous nous devions d'évoquer ses 80 années de carrière exceptionnelle.
Et alors, c'est une actrice que tu suis depuis longtemps.
Mon premier souvenir de Micheline Prell n'est pas lié à l'un de ses grands rôles dans un film de cinéma. Je l'ai rencontrée dans Les Saintes Chéries, sur un petit écran en noir et blanc. J'avais 10 ans, et comme je m'ennuyais dans mon enfance normande, je m'accrochais à l'ORTF et à ses Saintes Chéries. Cette série me semblait plus dynamique et originale que ce que je voyais à l'époque. Je la trouvais en mère farfelue, folle dingue et sexy, absolument épatante. L'image contraire de ma mère. Très vite, j'ai découpé les articles la concernant dans notre télé 7 jours familiale, la seule revue à laquelle nous étions abonnés. Je les ai collés sur la couverture de mes cahiers à spirale avec une étiquette « Vedette préférée ».
Vedette préférée à 10 ans. Ensuite, Dominique, tu t'es plongé dans sa carrière.
Oui, avec mes petites investigations, mes petits moyens et mon jeune âge, le cinéma de Houlgate, ouvert seulement l'été, m'a permis de voir Micheline Prell sur un grand écran. La chasse à l'homme d'Edouard Molinaro fut le premier film avec elle que je vis au cinéma. Et c'est seulement avec l'adolescence et le traditionnel ciné-club du dimanche soir que j'ai pu découvrir ses classiques. Falbala de Jacques Becker, Boule de suif de Christian Jacques et Le diable au corps de Claude Autant-Lara. C'est là que j'ai compris que Micheline Prell était une des plus importantes actrices françaises de ce siècle. Pas seulement pour son talent original, mais aussi pour son parcours admirable, sa constance à incarner de grandes figures de l'inconscient collectif, à assumer à elle seule les évolutions décisives de la condition féminine. Ce qui me frappe dans un film comme « Paradis perdu » d'Abel Gance de 1940, film à tout point décisif dans sa carrière, c'est de constater à quel point son jeu est moderne. Sa performance ne ressemble en rien à la manière de jouer des comédiennes de cette époque.
Et oui, Dominique, elle fut aussi avant-gardiste.
D'une certaine façon, bien avant Jeanne Moreau dans Jules et Jim, Brigitte Bardot dans Et Dieu créa la femme, Sophie Marceau dans La Boum ou Béatrice Dalle dans 37 degrés 2 le matin, Micheline Prell apportait une liberté de jeu et un souffle nouveau chez les actrices. Micheline est une actrice qui a, selon moi, le regard droit, qui a de l'humour et qui sait se moquer des autres autant que d'elle-même. Micheline Prell, après une carrière unique faite d'immenses succès, inscrite dans des réalités sociales différentes, et de traverser du désert affronté avec dignité sans jamais verser dans la médiocrité, Micheline Prell est une femme en mouvement.
Et c'est aussi une actrice sur le qui-vive.
Oui, ce qui intéresse Micheline, c'est d'être la première à découvrir un nouveau metteur en scène. Jacques Davila, Gérard Frocoutaz, Martin Provost notamment. Elle les sort de derrière les fauteuils des cinémas du quartier latin qu'elle fréquente tous les jours à la séance de 14h depuis 50 ans et qu'elle arpente encore d'un pied alerte avec une liberté d'esprit presque rebelle. Micheline a été la première jeune insolente du cinéma français, la femme fatale des années 40, la F populaire et déjantée des Saintes Chéries, la découvreuse du cinéma iconoclaste des années 70. C'est une femme contemporaine et aventurière que j'aime à appeler la spectatrice de la séance de 14h.
Eh bien voici Micheline Prell dans la série Chérie de Dominique Besnéard, Les Saintes Chéries.
Je le cafard.
Le cafard.
Oui, retrouver cet appartement vide, plein de poussière, la vie de Paris, oh là là.
Tu te figures que ça m'amuse de retrouver la tête de verjou au bureau, moi.
Oh là là.
Sans vauder que c'est moi qui travaille.
Oh, parce que moi, je travaille pas. Mais mon pauvre ami, mais les statistiques le prouvent. Et pourtant, elles sont faites par les hommes, hein, que ce sont les mères de famille qui travaillent le plus en France. Non, mais c'est vrai, moi je vais dire une chose, hein, je ne veux pas me laisser reprendre par la vie stupide de Paris, non. À Paris, on court toujours derrière 5 minutes, on s'énerve pour un rien, les gens sont hargneux, on mène une vie de fou.
Oui, t'as raison.
Ça, c'est fini, hein. On rentre de vacances, on est reposé, en forme, détendu, c'est un capital. Je ne veux pas le dilapider en 8 jours.
Non, t'as raison.
Relax. Comme disent les Américains, plus de bousculade. Je le répète, relax.
Relax.
Eh oui, relax, Micheline Prel dans cette série Les Saintes Chéries. Elle est aujourd'hui en forme, cette Micheline Prel.
Elle a 96 ans et tous les jours, elle va déjeuner aux éditeurs.
C'est Saint-Germain-des-Prés, c'est Odéon, ouais, hein, pour les gens qui ne sont pas de Paris. Voilà.
Et là, elle va peut-être encore voir des films, mais en tout cas, elle discute et moi, je vais la voir assez souvent. Et alors, elle est plus loquace sur son aventure avec Louis Jourdan que ce qu'elle a vu la veille.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup Dominique Besnéard. À la semaine prochaine, voici l'histoire du dimanche soir. Longtemps, le sport équestre en France fut une affaire de militaires. Oui, et bien au-delà du cadre noir de Saumur, le cheval et son officier, c'est une vieille histoire. À tel point qu'au palmarès olympique des épreuves d'équitation, figurent plusieurs militaires français, comme cette médaille d'or décrochée aux Jeux Olympiques de Londres en 1948 par le colonel Chevalier. Je vous jure que c'est son vrai nom, ce colonel Chevalier donc, qui expliquait au micro de Léon Zitrone ce qu'est l'épreuve sportive du saut d'obstacle à cheval.
Voici l'avis du colonel Chevalier, médaille d'or olympique, patron de Fontainebleau.
Ce sport n'est pas facile. Il n'est pas facile car d'une part, il a atteint un niveau élevé sur le plan des performances, ce qui impose une technique assez poussée. Et d'autre part, il met en œuvre deux athlètes, un cavalier et un cheval, c'est-à-dire deux êtres vivants, ayant chacun leur réaction propre et qui doivent s'accorder.
Merci au colonel Chevalier pour cette introduction. Pierre Durand, bonsoir. Je rappelle que vous êtes évidemment cavalier, champion olympique en 1988 à Séoul sur votre japelou. Votre duo a marqué les esprits de tout le monde en France, l'un et l'autre, dans ces Jeux olympiques en Corée du Sud. Pour commencer, Pierre, en quelques mots, en écho à ce qu'on vient d'entendre, est-ce que c'est pas la plus grande difficulté de votre sport de devenir centaure finalement, de faire corps avec votre cheval ?
Enfin, toujours est-il que ces propos sont toujours d'actualité, parce qu'effectivement, le colonel Chevalier fait état de la spécificité qui est celle de notre sport, quelle que soit la discipline d'ailleurs, que ce soit le jumping, que ce soit le dressage ou que ce soit le concours complet d'équitation. C'est effectivement d'abord, un, de trouver un partenaire qui soit à la hauteur de vos espoirs, et deux, ensuite, de créer une complicité, de former un véritable couple, au point que l'on puisse effectivement, comme vous le dites, être le prolongement l'un de l'autre, un peu comme est le symbole du centaure.
Et couple avec un animal, pas avec un partenaire. Un double en tennis, c'est deux êtres humains. Là, on a un couple qui est fait d'un être humain et d'un animal. C'est quand même très particulier.
Ben, c'est particulier parce qu'on ne peut pas communiquer par le langage.
Et oui.
Donc, il faut communiquer d'une autre façon. Mais de ce point de vue-là, le cheval nous aide beaucoup parce qu'il est doté d'un nombre infini d'antennes invisibles qui font qu'il parvient à quand même percevoir toutes nos émotions et finalement, parfois, à adhérer à notre projet.
On va y revenir, Pierre Durand. Évidemment, Frédéric Morand, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, vous, ancien cavalier également, vice-président de la Fédération française d'équitation en charge du saut d'obstacle, justement. J'ai dit en introduction que ce fut longtemps une affaire de militaire, mais si j'ai bien compris, c'est aussi une affaire de chasseur au tout départ. Au 19e siècle, tout d'un coup, on chasse à court. Et notamment en Angleterre, on impose des lois pour clôturer les campagnes. Et c'est là, tout simplement, que finalement, le cavalier va apprendre, avec son cheval pendant la chasse, à sauter l'obstacle. C'est bien ça, finalement.
Oui, ça commence là, mais c'est surtout le début du XXe siècle où justement les militaires mettent au goût du jour cette équitation. Cette discipline, elle nécessite une intensité, parce qu'un parcours, c'est très court. Et donc, il y a des automatismes et une liaison qui doit être hyper connectée entre le cheval et le cavalier.
Une grande symbiose entre les deux, absolument. Pierre Durand, comment est entré le cheval dans votre vie ? Ce n'est pas le sport le plus simple pour devenir champion olympique. Comment le jeune, le petit Pierre Durand découvre cet animal, le cheval ? Vous avez souvenir de ça, Pierre ?
Oui, très bien. Alors, je ne dirais pas qu'il est rentré par effraction, mais presque, parce que dans ma famille, il y avait une culture sportive, mais plutôt footballistique. Je commençais évidemment, comme tous les gamins, à jouer au football, et ça me plaisait beaucoup d'ailleurs. Mais le cheval est rentré au hasard d'une promenade à bicyclette avec mon grand-père.
D'accord.
Vous voyez, sur les chemins de la Gironde, et il m'amenait souvent en bicyclette, et je devais avoir 8-9 ans. Et là, j'ai vu dans un pré un cheval de travail, un cheval lourd. qui
un cheval de trait,
oui, de trait, voilà, c'est ça, oui, absolument, et qui a eu peur de, en nous voyant sur le chemin, et donc il s'est mis à courir, ce qui est assez étonnant pour un cheval de trait, il part pas comme ça, et il était magnifique. Et là, cet animal m'a tout simplement fasciné. Et j'ai attendu, j'ai demandé à ce qu'on s'arrête pour qu'il s'approche de nous, et je l'ai trouvé beau, mystérieux, et le cheval était rentré dans ma vie.
Pierre, on va dire aussi qu'au début, vous êtes aujourd'hui un couple célèbre, on va dire Durand-Japloux, c'est un couple célèbre. Mais au départ, l'histoire est compliquée. Aux premières rencontres avec Japloux, vous n'êtes pas vraiment fan du cheval. C'est plutôt votre père d'ailleurs qui flash un peu, qui comprend l'intérêt de ce cheval un peu bizarre. Qu'est-ce qui vous fait peur chez Japloux quand vous vous rencontrez? Vous vous rencontrez quand d'ailleurs avec Japloux? C'est quand votre rencontre?
Il a 4 ans.
Donc il est en 75, voilà, donc 79.
Voilà,
hein.
C'est ça.
Et qu'est-ce qui se passe avec Japloux? Pourquoi vous l'aimez pas trop?
Bah, c'est très simple, hein, parce qu'il a une particularité qu'il a gardée toute sa vie, hein, c'est qu'il était particulièrement petit. En dessous d'un mètre 60, il faisait 1m58 très précisément au garrot. Et à l'époque, le critère qui prévalait dans le choix d'un cheval pour qu'il saute des obstacles très hauts, c'était sa taille. Voilà. Donc, je ne voyais pas ce cheval-là être dans capacité de pouvoir sauter des obstacles qui étaient bien, bien plus hauts que lui. Et c'est sur ce simple critère qu'effectivement, je l'ai boudé lors de la première rencontre, y compris de la deuxième rencontre.
Oui.
Et il a fallu effectivement toute la ténacité de mon père, qui lui avait l'avantage de présider quelques petits concours entre clubs à l'époque, hein, c'était comme ça. Donc, il avait vu le cheval sauter sur des tout petits obstacles, mais il m'avait dit, ce cheval bondit comme je n'ai jamais vu un cheval sauter. Bougre d'imbécile, tu devrais t'intéresser à ce cheval. Et il a été tellement insistant, l'éleveur aussi d'ailleurs, que par usure, finalement, plus que par conviction, j'ai accepté de prendre Japloux dans mes écuries.
Et un cheval assez étrange aussi, je ne connais pas assez tout ça, mais c'est quand même un croisement entre un trotteur et un sauteur, ce qui est quand même pas commun, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises.
Alors, il y avait le critère de la taille, vous l'avez compris, mais il y avait effectivement le critère aussi génétique.
Et oui.
Parce qu'il était le pur produit d'un croisement, honnêtement, qui ne vient pas à l'esprit d'un éleveur qui a envie de faire un cheval destiné au saut d'obstacles. C'était un pur produit d'un trotteur et d'une pure sang. Et
oui.
C'est comme si, pour faire un raccourci, on croisait un labrador avec un lévrier afghan.
Et oui.
Pour faire quoi, on ne sait pas.
Frédéric Morand, donc évidemment, Pierre Durand et Japloux vont d'abord faire une première Olympiade en 84, on va y revenir. Mais j'ai une première question pour vous. Les athlètes, quand ils vont à Séoul, à Los Angeles, aux Olympiades, ils prennent l'avion. Comment on transporte un cheval de la France en Californie, par exemple, pour des Olympiades?
Les chevaux prennent l'avion dans des containers. Enfin, aménagé évidemment, par deux ou trois. Puis dans le voyage, il y a toujours un vétérinaire qui les accompagne. Et puis un groom, c'est le troisième acteur du...
Qu'est-ce qu'un groom?
Le groom, c'est celui qui s'occupe du cheval en permanence. C'est la nounou du cheval.
D'accord. Alors, arrivons donc à ces Jeux Olympiques de 84, Pierre Durand. Dans quel état d'esprit vous arrivez, vous, en 84? C'est votre première Olympiade. Japloux est un cheval particulier. Est-ce que vous voulez gagner ce titre olympique quand vous arrivez?
J'arrive avec des ambitions, celle au moins de revenir avec une médaille.
D'accord.
Alors pas forcément sur le plan individuel, parce que c'était tout d'abord ma première Olympiade. Japloux était très jeune, hein, il avait 9 ans. Et en fait, nous n'étions au haut niveau que depuis 2 ans. On sait que c'est un peu juste, hein, pour pouvoir s'imposer lors d'une première Olympiade avec si peu d'expérience. Mais j'avais des ambitions. Surtout, je suis parti heureux. Heureux de participer enfin aux Jeux Olympiques, ce qui était mon rêve d'adolescent. Et il y a ce fameux film, Les Chariots de Feu, magnifique film sur l'olympisme qui venait de sortir. Et je me souviens d'ailleurs, puisque l'avion, on en parlait à l'instant, je l'avais pris de Paris. Et en venant de Bordeaux, j'avais passé une nuit à Paris, j'étais allé voir le film. Et j'étais complètement imprégné de cette épopée olympique, surtout racontée dans Les Chariots de Feu. Et donc, j'avais envie d'emmagasiner un maximum d'émotions, de belles images. J'ai adoré, bien sûr, la cérémonie d'ouverture avec Carl Lewis, non loin. Le serment qui était lu à l'époque aussi par un grand athlète américain, noir américain. Enfin, toutes ces couleurs, tout ce mélange, c'était vraiment fabuleux.
Et puis, Japlou vous a joué un sale tour pendant cette épreuve d'olympisme en 84 à Los Angeles. Les gens qui ont ce souvenir en tête ont l'image d'une chute assez violente. Il y a un refus d'obstacle, hein. Japlou vous refuse un obstacle. Il vous expulse. D'ailleurs, vous faites une chute assez dangereuse. C'est-à-dire qu'on vous voit votre corps basculer. Et même, on est inquiet pour votre tête, par exemple. Vous tombez à la renverse, la tête la première. Quel souvenir vous avez de ce moment-là, Pierre, où avec cette animal dont vous devez faire corps, ça se sépare et de manière assez violente. Vous avez quel souvenir, Pierre Durand, de ce moment-là en 84?
Alors tout d'abord, je ne suis pas sûr que ce soit lui qui m'ait joué un tour, hein. C'est peut-être moi qui lui en ai joué un.
Ça c'est beau.
Et puis,
c'est la compréhension.
Hein. Et puis l'enjeu était considérable parce que je partais en dernier. Il fallait absolument que je réalise un parcours sans faute pour qu'on ait un espoir de médaille de bronze. Donc vous imaginez pénétrer sur le terrain avec comme obligation de résultat de ne pas toucher un obstacle. Il y en a quand même à peu près 15 à sauter qui sont plutôt compliqué. Donc c'est une énorme pression sur vos épaules et effectivement j'ai pas géré tout ça avec la lucidité suffisante et la maîtrise. Mais qu'est-ce que j'en garde? Un souvenir épouvantable. Même encore aujourd'hui quand je vois les images, je détourne la tête parce que ça a été d'abord très brutal. Quand Japlou s'arrêtait, c'était aussi un peu le problème qui explique que j'ai rarement pu rester sur lui, même pour ainsi dire jamais, parce qu'il n'anticipait pas, c'était pas prémédité chez lui, hein, c'était pas un cheval qui était au refus, c'était un cheval qui s'arrêtait de peur. Donc en fait, il s'arrêtait au dernier moment, quand il allait prendre son appel, il se rendait compte que les conditions n'étaient pas les bonnes, et là, il s'arrêtait, et il s'arrêtait violemment, avec la petite taille qui était la sienne, et en plus, il aurait pu être un excellent judoka, parce que pour éviter, on peut le comprendre, comme il s'arrêtait au dernier moment, éviter d'aller se fracasser le front sur les obstacles, il tournait comme ça, il baissait sa tête et il tournait avec son épaule, c'est-à-dire globalement, il m'envoyait, il me satellisait littéralement, et effectivement, cette chute-là, quand on la revoit, elle fait peur, parce que je suis à la verticale, à la descente.
Oui. Vous avez eu peur ou pas?
Non.
On n'a pas le temps d'avoir peur.
Non, parce que pendant toute la chute, j'ai pensé que j'allais pouvoir rester sur le cheval.
Ah oui, curieux. curieux, en effet,
parce
c'est
que
intéressant.
J'ai refusé, j'étais dans le déni absolu.
Les chariots de feu.
Je ne voulais pas tomber. Je savais quelle était la mission qui était la mienne. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Il va revenir en dessous de moi, je ne sais pas. D'ailleurs, j'ai gardé la bride dans la main parce que je voulais rien lâcher.
Pas lâcher, absolument. Frédéric Morand, quand on revoit ces images de 84, on voit la violence, évidemment, de la chute de Pierre Durand. Mais je trouve qu'on comprend aussi qu'en fait, on n'est jamais complètement maître du cheval. C'est-à-dire que le cheval reste aussi maître de ses émotions. Quand on voit Japlou, effectivement, il doit avoir peur de cet obstacle et lui décide tout seul, quelque part. Alors peut-être que Pierre a donné des influx un peu nerveux, je ne sais pas. Mais le cheval, quand même, reste aussi maître de lui-même dans un saut d'obstacle.
Pierre a bien expliqué qu'il y a une communion entre le cheval et le cavalier. On doit pouvoir compter l'un sur l'autre et que des fois, ou un excès de confiance de l'un ou de l'autre peut entraîner ce genre d'incident. Donc, il y a dû y avoir à un moment donné, peut-être Pierre concentré sur sa mission de faire son sans faute et une petite déconnexion entre les deux et qui tout d'un coup, le cheval a réouvert ses yeux et se retrouvait en face de cet obstacle-là.
Il a bloqué. Pierre, quand on joue au tennis et que le partenaire fait une bêtise ou qu'on n'est pas d'accord, on peut lui parler. Qu'est-ce qui se passe, Pierre Durand, quand vous rentrez aux écuries? Parce qu'il faut quand même se souvenir que Japlou, en plus, se barre. Il vous laisse tout seul sur la piste. Donc il s'en va. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous vous retrouvez tous les deux? Est-ce que vous êtes en colère après lui? Est-ce que lui, comment il réagit par rapport à vous revoir physiquement? Est-ce qu'il sait qu'il a fait une bêtise? Quel rapport on a avec son cheval quand on a vécu ce refus d'obstacle-là, Pierre, dans les minutes qui suivent?
Tout d'abord, dans les secondes qui suivent, c'est excessivement cruel parce qu'effectivement, d'abord, on est séparés. Mm-hmm. Et puis, effectivement, quand je me relève, je vois bien que le cheval, pris de peur, se met à galoper dans l'enceinte. Vous êtes quand même devant... Je pense qu'il devait y avoir au moins 40 000 spectateurs.
Oui. Plus Mondovision.
C'était Mondovision, c'était assez loin en plus. Et j'ai dû traverser à pied, la bride à la main, la moitié du terrain. Et ça, je peux vous assurer que ça a été un moment long. J'avais envie d'être un animal fouisseur pour surtout partir. Et la séparation a duré quand même jusqu'au soir. Hein, parce que lui, il a été rattrapé, évidemment. Moi, quand je suis sorti de piste, je suis parti dans un coin pleurer toutes les larmes de mon corps. Et nous voulons parler à personne et nous voulons voir personne. Donc ça a duré un petit moment. Et après, je l'ai revu, mais je ne pouvais pas lui en vouloir. Et il ne m'en a pas voulu parce que ce que l'on oublie, c'est que l'épreuve par équipe précédait l'épreuve individuelle. Et que 4 jours après, il a fallu faire l'épreuve individuelle, ça n'a pas été facile non plus.
Eh oui.
Mais il ne m'en a pas voulu parce qu'il ne s'est pas arrêté.
Absolument. On va continuer à parler de Japlou et de Pierre Durand. On passera à l'étape suivante, celle de 88. Ce sera après le disque, car maintenant c'est l'heure de l'orchestre sur Inter, emmené ce soir par un jeune artiste kényan installé à Los Angeles depuis 5 ans. Son nom, J.S. Ondara. Et le titre joué aujourd'hui, American Dream, ainsi soit-il.
He was just an American dream. He was just an American dream. Yeah, yeah. Just an American dream. He was just an American dream. Yeah, yeah. Lover, don't you come down without a sword or a gun. For the gold and the silver you're searching is hidden out there underground. But there's a beast on the cloak, guarding against the foe. And the ghost from the river is watching, she won't let you get any close. Just an American dream. He was just an American dream. Yeah, yeah. He was just an American dream. He was just an American dream. Yeah, yeah. Lover, don't make a sound. Bring your rifle.
L'œil du tigre.
Joie et émotion des Durand.
Philippe Collin.
Fierté de Japlou que Pierre Durand n'oublie pas en accrochant la médaille d'or sur son poitrail. De Los Angeles à Séoul, 4 ans de vie commune et une harmonie sans faille entre Durand et Japlou, fruit des amours d'un trotteur et d'un pur sang anglais. D'ailleurs, ils sont déjà champions d'Europe. Mais ce parcours est difficile, des obstacles très gros, 1m70 alors que Japlou ne fait qu'1m60 au garrot. Japlou a du cœur, c'est son côté trotteur. Et du caractère, ça c'est le côté pur sang.
Sur France Inter.
Oui, 4 années se sont écoulées depuis les Jeux Olympiques de Los Angeles, lorsque Pierre Durand et Japlou, sa fidèle monture, débarquent aux Olympiades de Séoul avec le désir partagé par l'homme et son cheval, sans doute, d'effacer l'humiliation du refus d'obstacle et la chute du cavalier sur la piste en Californie. Nous sommes alors le 2 octobre 1988, ultime journée des Jeux Olympiques en Corée du Sud.
Le journal Claude Ménot.
Finale en beauté pour les Français à Séoul grâce à l'équitation. Pierre Durand et Japlou sont en effet devenus ce matin champions olympiques de saut d'obstacle. Une médaille d'or qui arrive 24 ans après celle obtenue par Pierre Jonquière d'Oriola, sacrée à Tokyo. Une victoire qui a toutefois pris du temps à se dessiner car après ces deux parcours, Pierre Durand, pour décrocher le titre olympique, devait compter sur une faute de ses adversaires, comme nous l'explique maintenant Jean-Paul Brouchon.
Le chef de piste du concours de saut d'obstacle, Peter Peterson, est allemand. C'est lui qui a conçu le parcours de la finale de l'épreuve. Les Français, à l'issue de la première manche, le soupçonnent d'avoir transmis, contrairement à la règle, le parcours au cavalier allemand. Les Allemands, en effet, ont placé Carsten Huck en tête avec un sans faute et leurs deux autres cavaliers en position à peine moins privilégiée à l'issue de la première manche. Dans la deuxième manche, Peter Peterson veut se faire un petit plaisir. Le neuvième et avant-dernier obstacle n'est autre que la représentation du portail de sa maison près de Düsseldorf. Peterson a même donné à cet obstacle son nom, il l'appelle le portail de Peterson. Et c'est justement à cet obstacle que Carsten Huck a fait une faute qui lui a coûté la médaille d'or d'abord, puis la médaille d'argent. Pierre Durand et Japlou ont, eux, fort bien négocié les deux parcours, ne faisant aucune faute. Pierre Durand fut somptueux, étonnamment calme. Il n'a laissé éclater sa joie que lorsque Huck a trébuché, car alors Pierre Durand était champion olympique.
Un souvenir fantastique, j'imagine, Pierre Durand. Un moment dont beaucoup de monde se souvient en France. Hein, ça a beaucoup marqué la mémoire collective des amoureux du sport et de l'olympisme. Néanmoins, j'ai lu que vous dites que ce moment-là signe aussi, entre guillemets, votre mort sportive. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour quelle raison vous dites ça, Pierre Durand?
Parce que d'abord, ça a été le cas. Ça a été le cas parce que les Jeux Olympiques étaient mon objectif.
Depuis longtemps.
Depuis
l'enfance.
Adolescent, mmh. en fait. Mmh. Hein, c'était un rêve d'adolescent que j'ai pu transformer, j'allais dire, en réalité. C'est en 1968, en regardant les Jeux Olympiques de Mexico, avec tout ce qui s'est passé en plus à cette occasion-là, vous vous en souvenez.
L'Olympiade très politique. Oui, oui.
Très politique. Mm-hmm. Donc, en fait, j'ai compris que cet événement n'était pas purement sportif, qu'il portait aussi une autre dimension.
Une charge symbolique.
Une oui. autre dimension. Mm-hmm. Oui, et politique même, mm-hmm. effectivement, parce qu'exploité comme tel, en tout cas par les athlètes noirs américains. Et donc, je voulais y être, je voulais y participer, je voulais pouvoir un jour y accéder. Et puis, bien sûr, comme à ces Jeux Olympiques de 68, il y avait le fameux Pierre Joncard d'Oriola, le seul cavalier au monde à ce jour encore à avoir été double champion olympique à titre individuel. Et c'était évidemment celui qui a eu force de vocation pour moi. C'était mon idole et je voulais faire comme lui, tout simplement, quoi. Tout simplement, même si en 68, ça s'était pas très bien passé du tout pour lui, en individuel notamment. Donc voilà. Et en fait, j'avais aussi, pourquoi j'avais envie d'aller aux Jeux Olympiques? Parce que je voulais me confronter dans le respect de règles plutôt strictes avec les meilleurs quand ils ont décidé d'être les meilleurs. Et là, c'est un instant de vérité. Hein. Personne n'y vient en se disant « je néglige ce jour-là », comme ça peut être le cas tout au long de l'année dans certaines belles épreuves, voire des grands prix où on vient pas toujours avec la motivation. Non, là, on s'est préparé. On a préparé les chevaux. On est au maximum de ses capacités. Et c'est quand même assez génial d'aller s'imposer dans ces conditions-là.
Frédéric Morand, je rappelle, vous êtes vice-président de la Fédération française d'équitation, mais vous êtes aussi chef de piste, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. C'est ce qu'on a entendu dans le son à l'instant. Ça veut dire que dans cette épreuve sportive du saut d'obstacle d'équitation, il y a une personne qui est chargée de composer le parcours. C'est assez particulier. Racontez-nous ça. C'est quoi cette fonction, je veux dire?
Oui, c'est une profession. Ouais. Hein. Le chef de piste est un architecte qui va construire des parcours et proposer donc aux cavaliers des problèmes à résoudre en fonction de leur niveau, évidemment. Alors là, on est aux Jeux Olympiques, donc on est avec les meilleurs. On est aussi à un moment important dans ces Jeux à Séoul parce que ça va être quasiment la fin du gigantisme. Parce qu'il y avait une sorte de domination de certains chefs de piste et qui voulaient à tout prix aller se faire sauter les chevaux de plus en plus haut et faire des choses de plus en plus difficiles.
C'est un parcours très dur.
Ça valorise la performance de Pierre parce que déjouer les pièges de ce chef de piste allemand, qui était assez redoutable et connu pour ça, ça nécessite beaucoup, beaucoup de talent. Alors le chef de piste, il construit un parcours entre 13 et 14 obstacles avec des sauts des obstacles qu'on appelle des combinaisons, donc où il y a des sauts multiples. Et il propose sur un parcours qui va durer 90 secondes, 100 secondes, par exemple, pour les Jeux Olympiques, un certain nombre de problèmes à résoudre, sachant qu'on fait tout ça au galop, à 400 mètres minute, donc ça va assez vite, on saute un obstacle, il faut enregistrer ce qu'on a fait, et puis trouver la solution qu'il y a derrière, etc. Suite à une reconnaissance, les cavaliers font une reconnaissance du parcours proposé par le chef de piste, évidemment. Ils emmagasinent un certain nombre d'informations, mais ils doivent être à même de pouvoir modifier ce qu'ils ont prévu, parce que le saut ne s'est pas passé exactement comme ils l'avaient souhaité, et il faut donc réagir rapidement pour aller ressauter le suivant.
Mais un chef de piste, par exemple, il connaît à la fois les cavaliers, il connaît aussi peut-être la psychologie des chevaux. Oui, un chef de piste, il peut peser sur un résultat.
Oui, il peut.
C'est particulier comme... C'est une épreuve particulière.
Oui, oui.
Il peut avantager un cavalier et son cheval en fonction des éléments qu'il peut avoir.
Avantager, c'est un peu plus compliqué. Mais il peut donner... Enfin, c'était une sorte de supposition pendant ces Jeux, qu'il avait pu donner des instructions aux cavaliers allemands, des difficultés qu'il allait faire pour qu'eux puissent se préparer un peu mieux que les autres pour les Jeux.
Qu'est-ce que vous avez changé, Pierre Durand, entre vous et Japlou pendant ces 4 années qui nous sépare de Los Angeles à Séoul? Qu'est-ce que vous avez appréhendé différemment pour que cette symbiose s'opère justement en Corée du Sud?
Je me suis remis en cause totalement. Je suis reparti finalement pour écrire une feuille quasiment blanche, tout en tenant compte quand même de cette expérience des Jeux Olympiques de Los Angeles. Et paradoxalement, bien sûr, on a en mémoire cette chute qu'on vient de commenter, mais comme je l'ai indiqué il y a quelques instants, il y avait l'épreuve individuelle derrière. Après individuel qui est très compliqué, très technique, avec des obstacles impressionnants à sauter. Et nous avons, avec Japlou, été plutôt à la hauteur, parce qu'on termine 12e en faisant 3 fautes. Et à l'analyse, J'avais au moins deux fautes que j'aurais pu éviter si j'avais été vraiment très en confiance, ce qui n'était pas le cas, évidemment, trois jours après m'être lamentablement ramassé sur la même piste. Donc j'appréhendais considérablement, je n'étais pas en confiance. Et là, je me suis dit que mon cheval avait le potentiel de pouvoir aller chercher un podium au moins et pourquoi pas un titre olympique. Donc j'ai gagné cette confiance-là, cette conscience là que c'était possible, mais j'ai analysé évidemment tout ce qui ne s'était pas bien passé dans les jours qui ont précédé, les semaines, les mois précédents, ma façon aussi de monter Japloux, de l'associer à cet enjeu des jeux. J'étais plutôt, parce que c'est l'enseignement que j'ai reçu dans un rapport de force avec le cheval, c'était plutôt le cavalier dominant, le cheval dominé. Et là, j'ai compris qu'en tout cas, avec ce cheval-là, ça ne pourrait pas du tout fonctionner, qu'il fallait l'amener à adhérer à cette...
À quoi ? Une équité des rapports ? Entre vous deux ?
C'est plus qu'une équité, parce que je pense que là, il faut que le cavalier se mette vraiment, se place à l'écoute de son cheval, apprenne d'abord à le connaître, donc ne le néglige
vous
pas.
Vous avez grandi, en fait, pendant ces 4 ans.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Les deux ont grandi. J'ai grandi assez rapidement, quand même, parce que quelques mois après, en avril 85, donc 6 mois après, je termine 3e de la finale de la Coupe du Monde à Berlin, déjà chez les Allemands, c'était pas simple. 86, je fais un magnifique championnat du monde à Aix-la-Chapelle, encore chez les Allemands, sans faire tomber un obstacle. On était les seuls avant la finale par échange de chevaux, donc c'était un championnat sans tâche. Dans le temple d'Aix-la-Chapelle, avec les obstacles qu'il y avait, c'était une vraie, vraie grande performance. Je suis champion d'Europe en 87, le premier Français d'ailleurs à avoir été champion d'Europe à titre individuel. Et 88, donc s'inscrit, j'allais dire, dans cette progression, cette logique. Et d'ailleurs, dans mes objectifs intermédiaires, j'avais placé tous ces grands championnats pour être certain donc
d'arriver prêt,
d'arriver avec une assurance que je pouvais être champion olympique. Voilà, ça a été une remise en cause totale. Je pense que la remise en cause la plus importante, ça a été dans ma relation avec Japloux, dans l'approche de son entraînement, de son dressage, de la programmation de ses compétitions. Je voulais le garder toujours généreux, avec l'envie de se dépasser, parce que c'est quand même lui qui produisait l'effort, et Dieu sait s'il en a produit de façon répétée. En fait, j'ai essayé de ne rien laisser au hasard, à tel point même que j'étais allé faire une reconnaissance à Séoul en janvier qui a précédé pour aller voir les sites de compétition et m'imprégner de ce qui allait nous attendre.
J'ai lu aussi, Pierre Durand, que vous avez beaucoup lu dans les semaines qui ont précédé Séoul, Fureur et Mystère de René Char, recueil de poésie extraordinaire signé René Char. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans Fureur et Mystère pour vous conduire jusqu'au titre olympique ? Qu'est-ce qu'il y avait chez René Char pour vous ?
Donc, tout d'abord, bon, j'aime la poésie, et plus particulièrement René Char. J'aimais chez lui cette capacité qu'il avait en une phrase ou deux phrases de pouvoir évoquer des situations avec émotion, force, d'une façon assez incroyable. Et puis, je m'étais accroché surtout à une de ces phrases qui était devenue mon leitmotiv.
Laquelle ? Parce qu'il y en a une qui m'a intrigué dans...
Ça doit être celle que vous avez.
Ne t'attarde pas à l'ornière des résultats.
Ah, il y avait ça aussi.
Parce que c'est genre, ça évacue la pression. Ne t'attarde pas à l'ornière des résultats. C'est assez beau quand on veut gagner un titre olympique. On peut aussi se libérer avec une phrase pareille.
Il y avait cette phrase-là. Et puis, il y avait cette autre phrase qui, évidemment, là, d'un seul coup, va m'échapper. C'est « Impose ta chance, va vers ton risque, cours vers ton bonheur. » À te regarder, ils s'habitueront. Et c'était exactement mon parcours, ça, en fait. Et cette phrase résumait, enfin, à la fois mon parcours et ce que l'on devait atteindre, être, pour pouvoir accéder au Graal. Et j'aimais bien « ils s'habitueront », parce que tout ce que j'avais vécu précédemment, effectivement, avait fait naître pas mal de, vous l'imaginez, de commentaires, voire même de jalousie. J'étais un cavalier assez inclassable, mon cheval était atypique. Donc, après les Jeux de Los Angeles, j'étais bien sûr attendu par tous les mauvais esprits, les jaloux, les chichiteux, les détracteurs, qui attendaient qu'une seule chose, c'est que je commette une erreur, fasse une approximation. Même mes adversaires en jouaient pour me déstabiliser avant la compétition, au moment de la reconnaissance de piste. Et donc, il a bien fallu qu'il s'habitue à ce que je sois tenace et que je ne lâche rien, et surtout aux performances qui étaient les nôtres. Donc cette phrase-là résumait assez bien ce que je devais respecter. Quoi.
Pierre Durand, Japlou est mort en 1991 de manière assez inattendue, brutale. Quelle place il occupe aujourd'hui dans votre vie ? Qu'est-ce qui se passe avec Japlou dans la vie de Pierre Durand aujourd'hui en 2019 ?
Ben Japlou, il arbitre ma vie, il continue, parce que il ne se passe pratiquement pas un jour, sans qu'on me parle de ce titre olympique, mais surtout sans qu'on me parle de Japlou. Pas un jour. Là, je reviens d'un voyage aux Caraïbes, et au milieu de nulle part, j'ai croisé une personne qui semblait m'avoir reconnu, malgré l'âge, et qui m'a parlé de Japlou. Donc, où que j'aille, on m'en parle pratiquement quotidiennement. Donc, il arbitre ma vie aussi. Il a arbitré des choix de ma vie, vivant et mort. On est indissociable.
Vous montez encore à cheval aujourd'hui ou pas ?
Occasionnellement.
Occasionnellement. Oui. Donc, vous n'avez pas regret un rapport avec un cheval aujourd'hui ?
Non, c'est trop. Frédéric l'a dit tout à l'heure, c'est un investissement énorme. Parce que même à l'époque où j'avais Japlou, j'avais d'autres chevaux quand même dans mon écurie. Mais c'est vraiment sur lui que je me suis concentré véritablement et que j'ai voulu créer vraiment des liens très forts. Au point même d'ailleurs qu'il fallait que je m'adapte à sa morphologie aussi, on l'a dit, à sa locomotion qui était très particulière. J'ai changé mon attitude à cheval et je ne voulais pas la modifier avec les autres chevaux, même si ça leur convenait moins bien, pour ne pas me perturber dans mes repères, j'allais dire, avec Japlou. Donc recommencer la même histoire, c'était pas possible, je pense, c'est même certain. Et je n'en ai pas eu l'envie, comme vous l'avez formulé tout à l'heure, ça a été ma petite mort sportive. Et Dieu merci, avec Japlou, on a encore fait 4 années de compétition derrière, avec des très bons moments, des grands moments, dont notamment un titre de champion du monde à Stockholm, qui était un grand moment. Mais je n'ai pas eu envie de prolonger tout ça.
Pierre Durand, Japlou, un duo mythique du sport français au XXe siècle. Merci à vous deux ce soir, Frédéric Morand et Pierre Durand, de nous avoir rendu visite pour évoquer ce sport qui est le saut d'obstacles équestre. Je rappelle que cette semaine se tenait le Jumping International de Bordeaux, une épreuve équestre qui comptait pour la Coupe du Monde du saut d'obstacles. Merci beaucoup à vous deux. Ne quittez pas l'écoute car voici le Give Me Five de Joy Raffin.
L'œil du tigre.
Rebonsoir Joy.
Rebonsoir Colin, rebonsoir à tous.
Alors que trouve-t-on dans ton Give Me Five ce soir ?
Eh bien en cette journée où le CSA lance une opération de promotion du sport féminin, à laquelle bien sûr Radio France participe activement, mon Give Me Five sera 100% girl power.
Alors ce n'est pas la première fois, rappelons-le, que tu fais ça, et heureusement qu'on ne parle pas de sport féminin qu'une fois par an.
Oui, je te le fais pas dire, quoi. Voilà. C'est toujours bien de le rappeler. Mais bon, encourageons l'initiative du CSA et commençons par adresser un big up au support supporters de foot espagnols qui, la semaine dernière, ont été plus de 48 000 à venir supporter l'équipe féminine de l'Atlético Bilbao qui affrontait celle de l'Atlético Madrid en Coupe de la Reine, donc l'équivalent de la Coupe du Roi. Voilà, alors pour ce match, le stade de San Mamés affiché complet et il a tout simplement réalisé son record de la saison qui était de 46 860 spectateurs lors d'un match pour des masculins. Donc voilà, c'est suffisamment rare pour être souligné. Les filles, bien joué ou vamos !
Eh oui, incroyable cette affluence pour ce match entre l'Atlético Bilbao et l'Atlético Madrid. Malheureusement, toutes les sportives ne sont pas aussi adulées. Joy, non. Tu as eu un témoignage glaçant cette semaine.
Oui, un article exaspérant même, on peut le dire, mais nécessaire à lire sur le huffingtonpost.fr. Alors le titre est équivoque. Je participe à 10 marathons cette année et je continue à être la cible des grossophobes. Il s'agit en fait du témoignage de Latoya Chotney-Snell qui tient un blog dans lequel elle partage ses progrès sportifs et propose son propre programme de régime. Sauf que cette initiative, donc positive, en fait, ça tourne au cauchemar. Donc voilà comment commence le récit de la jeune femme. Cette année, je me suis inscrite à 10 marathons et pourtant, bien que j'ai remporté plus de 100 médailles et participé à près de 200 épreuves de course, cyclisme et course d'obstacles en 5 ans, c'est quand même pas rien, la police du net ne cesse de me rappeler que je dois perdre du poids. Je suis une coureuse de l'extrême, décomplexée, je mesure 1m60 pour 100 kg, je viens de Brooklyn et je fais constamment l'objet de remarques sur mon poids. Voilà. Alors, je vous laisse lire la suite du témoignage de l'athlète américaine, hein, c'est vraiment effarant. Donc, elle reçoit presque davantage de commentaires haineux qu'à l'époque où elle pesait deux fois plus et courait trois fois moins. Hein. Alors, des messages rageux du genre, ben, à quoi ça sert de faire du sport si t'es toujours aussi grosse? Tu fais la promotion des obèses en disant qu'on peut être bien dans sa peau à 100 kilos. Ou alors, encore pire, hein, on l'accuse régulièrement d'être à l'origine du diabète de son fils et de ne rien faire contre. Voilà.
Super.
Donc, effrayant vraiment, mais allez, Latoya, ne lâche rien. Nous, on croit en toi.
Absolument. Et comme la conjugaison sport et femme n'est toujours pas gagnée, Joy, il y a une initiative que tu souhaites encourager.
Ouais, alors il y a un magazine dont je vous ai déjà parlé ici, hein, qui s'appelle Les Sportives, et qui a besoin de vous, alors comme bon nombre de médias, hein, vous me direz. Le magazine Les Sportives avait vu le jour en avril 2016, lancé par une jeune femme, Aurélie Bresson, seule et avec vraiment ses fonds propres. C'était une sportive assidue et convaincue, qui était partie du constat que les femmes étaient sous-représentées dans les médias sportifs. Un exemple, hein, à la télé, le temps d'antenne consacré au sport féminin, c'est 15% à peu près. Bref, aujourd'hui, Aurélie Bresson a besoin de vous, de nous, pour continuer à promouvoir la visibilité du sport féminin. Les sportives ont donc lancé, maintenant on a un peu l'habitude, hein, un crowdfunding, donc un appel à fonds, à argent, à dons, pour développer leur digitalisation, pour créer davantage de contenu vidéo, pour renforcer leurs moyens humains, pour couvrir encore, encore et toujours plus, et davantage, l'actualité du sport au féminin. Comment ne pas avoir envie de les soutenir?
Et on mettra les informations sur la page web de l'Œil du Tigre.
Bien sûr.
Et sinon, heureusement, il y a des sportifs pour qui, elles, tout va très bien.
Ah, ça? Alors, il s'agit d'une info de la presse portugaise qui nous informe cette semaine que l'équipe féminine de foot du Benfica Lisbonne a inscrit cette saison 293 buts en 16 matchs. Voilà. Donc elle reste même sur une victoire, bon c'est anecdotique, hein, de 32-0. Donc un an seulement après son lancement, l'équipe féminine du Benfica Lisbonne écrase, hein, la deuxième division du championnat portugais et elle espère monter vite pour intégrer l'élite. Bon, sacrée statistique qui ferait rougir plus d'une équipe masculine.
Ça, c'est sûr, Joy. Et pour finir, ton conseil culturel du jour.
Eh bien, on reste dans le girl power, Colin, avec un film qui sortira en DVD la semaine prochaine et que vous devrez voir si vous l'avez raté au ciné. C'est Girl de Lucas Dont, ou l'histoire de Lara, 15 ans, qui rêve de devenir danseuse étoile, sauf que celle-ci est née dans le corps d'un garçon. Voilà. Donc grâce à une détermination sans faille et au soutien d'un père qui est vraiment formidable, Girl raconte l'histoire de Lara, cette fille pas comme les autres, mais qui donne tout pour la danse. Alors c'est un film très beau qui interroge la question du genre, hein, évidemment, du sacrifice et du sport, tout ça en même temps. À Cannes l'an passé, Girl avait remporté la Caméra d'Or et la Queer Palm, alors que Victor Polster, hein, le garçon qui joue Lara, repartait lui avec le prix d'interprétation de la section Un Certain Regard. Voilà, c'est amplement mérité, sinon évidemment, je ne vous en aurais pas parlé.
Évidemment, alors Girl de Lucas Dont, c'est à voir donc désormais en DVD. Merci Joy.
Et à la semaine prochaine.
Oui, salut. Bye. Joy. Et voilà, cette 23e émission de notre saison 4 a été coachée ce soir par H2M, évidemment, Marco Mutel. Merci Marco. Assisté ce soir à la technique de Stéphane Boja. Merci à lui, merci à toute l'équipe de l'Œil du Tigre. Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi, Thierry Dupin pour les Scuds. Et Loïc Saulnier pour l'animation de nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, évidemment, avec le compte L'Œil du Tigre, mais aussi sur franceinter.fr, bien sûr, pour catcher le podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec le sport des super-héros de l'Antiquité. Que savez-vous du décathlon? Eh bien, on en cause avec le champion du monde de la discipline, l'incroyable Kevin Mayer. D'ici là, passez une excellente soirée, une excellente semaine. On vous attend dimanche prochain dans L'Œil du Tigre à 18h sur Inter. Salut et fraternité.